Salut les princesses, Maria Kerr, Sonic Eric, c'est une heure de New Breakfast Club sur Radio Collège. Alors aujourd'hui une émission pleine de bonne musique, mais enfin ça c'est pas, ça sera pas quelque chose d'inhabituel.
Non non, loin s'en faut.
Avec un thème qui je pense ravira l'ami Maria Kerr, puisqu'il s'agira de parler des bandes originales plus connues que les films qui les ont inspirées.
Et il y a à faire en fait, il y a à faire. Mais avant ça, on va évidemment prendre la nouveauté de la semaine. Vous m'excuserez d'ores et déjà de ma voix un peu dylanesque, mais le rhume m'est tombé sur le coin du nez justement avec ces températures un peu folles des jours derniers. La nouveauté de la semaine, c'est les petits gars, le Quatuor Pop Frenchy Touchy de Phoenix. Les Phoenix, qui en 2000, je sais pas si vous vous souvenez de ce titre, If I Feel Better With You, qui avait inondé les radios, en sont déjà leur quatrième album après United, Alphabetical et un live qui avait pas beaucoup marqué l'histoire de la pop, hein, mine de rien. Et eux qui habituellement évoquent Melo, Air, Daft Punk ou Tahiti 80, qui est peut-être le fameux groupe de Rouen, qui est le groupe qui est le plus proche d'eux. Cette fois-ci, pour ce quatrième album, il ressemblerait plutôt, enfin, il tirerait plutôt pour le pire vers Fleetwood Mac.
Oula,
voilà.
Oula.
Mais pour le meilleur,
souvenir.
Mais pour le meilleur, peut-être bien les Strokes. Et donc, on a préféré retenir le meilleur pour aujourd'hui. Et nous vous proposons le sixième titre de cet album qui s'appelle It's Never Been Like That. Et le titre en question, c'est Lost and Found. So you got your own little story to tell. Some girls they ask to put them on your knees. Slow down, it's hard enough to get along. Slow down, we'll never ever get along. That ain't what you had in mind. No, that ain't what you had in mind. You don't know what you're doing. Lost and Found sur
le quatrième album de Phoenix.
Ouais, c'est pas mal. L'album est pas tout à fait de cette volée là hein, quand même, il est beaucoup plus inégal. Mais ce titre s'en sort plutôt bien. Et effectivement, il y a quelque chose des Strokes dans les guitares et tout ça. Si la voix était un peu plus enrhumée comme la mienne justement, un peu plus paresseuse comme celle du chanteur des Strokes, ça pourrait figurer sur un de leurs disques sans aucun problème.
Alors une cover assez obscure d'une chanteuse qui ne l'est pas moins.
Pour les Français, oui.
Oui, ouais. Il faut, je crois,
aucun disque sorti
habiter
en France,
pas loin du cercle polaire arctique pour la connaître. Aucun disque sorti en France. Des imports japonais au mieux, dans quelques officines parisiennes.
Et un nom à coucher dehors.
Ah oui, Solveig. Bon, là,
ça va.
Mais Sletagel. Non, pas
Vivagel. Et vous l'avez pas vu écrit.
Il y a au moins 3 H, 4 J, 5 L.
C'est très compliqué. Le tout assez bien mélangé.
Ouais. Alors, la chanteuse vaut mieux que son nom. Elle vaut même beaucoup, beaucoup pour moi, car elle possède un mimétisme incroyable, enfin sa voix, avec celle de Diana Krall. Alors,
c'est pas pour m'emballer.
Te rassurer. Moi, j'adore Diana Krall. Je trouve une sensualité, une lascivité presque, je trouve très très touchante, très très émouvante. Et tu vas me dire que c'est pas assez inconfortable.
Quant à moi, c'est pas assez inconfortable. Et j'ai plaisir à dire que c'est de la musique pour abonner au Nouvel Observateur. C'est-à-dire que peu de danger, peu de fétichisme. Je trouve ça très clean, quoi.
Oui, mais tu ne l'as pas encore entendu.
Je parlais de Diana Krall.
Oui, tu parlais de Diana Krall. Alors, vous allez voir que la reprise est en rapport avec le thème de l'émission, puisqu'il s'agit d'une reprise d'une chanson popularisée par Marilyn Monroe, My Heart Belongs to Daddy, qu'on connaît très très bien, mais on ne se rappelle plus toujours de quel film il s'agit.
C'est en fait le seul peut-être problème avec Marilyn Monroe, c'est pas spécialement que les chansons soient plus fameuses que les films, c'est que rarement on ne parvient à les remettre avec le bon film. C'est-à-dire qu'on a les chansons d'une part, les films de l'autre, on peut à peu près citer la liste de chaque, simplement on n'est pas fichu de les rassembler.
Alors là, c'était dans Gentlemen Prefer Blondes, et on écoute non pas la version de Marilyn Monroe, mais la cover signée, je le redis une deuxième fois, Solveig Sletagel.
Fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my so I want to warn you, laddie, it so well.
Toi, ça me pose pas vraiment de problème de couper le morceau.
Oh, qu'il est odieux. Ah, c'est pas dans ta cour, c'est sûr. Moi, j'aime bien.
Non, non, mais c'est pas très pop non plus. J'aime de toute façon, c'est globalement ce que ce qui me fait.
Ah non, c'est pas du tout pop.
Ce qui me fait, ouais. Ce qui me fait tenir le jazz à distance ou inversement, je ne sais pas au fond. C'est justement qu'il y a pas tellement, de respect pour la chanson, quoi. C'est pas la forme chanson, c'est pas une forme de jazz, quoi.
Non, complètement, parce que là c'est étiré quasiment à l'infini, parce que la chanson se prolonge encore de 2 minutes.
Ouais. Peu de mélodie, il faut vraiment s'accrocher pour retrouver le morceau original. Il y a trop d'exercices pour moi.
Ouais, moi j'aime l'aspect instrumental, j'aime bien la trompette, hein, ça fait un pont avec Miles Davis.
Ça va faire un vrai pont. Ouais.
J'aime bien la voix traitée comme un instrument, que je trouve assez charnel, assez belle, celle de Solveig Slettagel. On en reparlera peut-être, mais le jour où tu seras absent.
Voilà, puis peut-être qu'elle aura enfin une actualité en France après tout, parce que il y a un public pour ce type de produits. Hein.
Oui, non, c'est vrai, c'est pas forcément les gens qui aiment.
Non, mais Blue Note France pourrait faire quelque chose pour elle. Moi pas.
Extra, extra, read all about it, the pinball wizard and the miracle cure. Extra, extra, read all about it. Extra.
Alors les amis, c'est la dernière fois que vous entendez ce générique parce qu'il n'y a plus de Read All About It parce qu'il n'y aura plus rien à lire. On abandonne passagèrement.
Je sais pas passagèrement. On s'est tellement fait clouer au pilori avec cette rubrique sous prétexte qu'on avouait trop facilement nos sources. Alors maintenant on va les taire. Hein. Ça va être on va lire la même chose.
Voilà.
On va vous parler des trucs qu'on voit dedans, mais on vous dira pas que ça vient de là. C'est tout.
On parle plus des Arocs, on parle plus de Magic.
Non. On passe à France Football et de toute façon cette saison.
Et sous foot.
Alors désormais donc une nouvelle rubrique en lieu et place de cette revue de presse hebdo.
Oui, qui s'appelle cette rubrique. Alors il y aura un nouveau jingle dès la semaine prochaine.
Sûr, ouais.
Trésor caché. Alors cette nouvelle rubrique, de quoi s'agit-il exactement?
J'aimerais bien le savoir parce que sinon je ne vais pas savoir m'en servir moi.
Alors il s'agit de donner un coup de projecteur sur un album ou un single injustement oublié ou qui fut à tort négligé lors de sa sortie. Alors c'est pas
très
forcément
bien.
Quelque chose d'obscur qui a eu un pressage roumain uniquement.
Oui, on
avec
va pas
des...
faire les
non,
malins
non,
non plus
on va,
quoi.
On va pas faire les snobs déjà que c'est une critique qui vient
assez facilement.
Assez facilement.
Y compris dans ses locaux.
Oui, chez le détracteur évidemment encore plus. Non, il s'agit de remettre c'est ça un petit coup sur
un coup de polish.
Un coup de polish sur une splendeur ou un petit joyau du passé qui était recouvert par la poussière. Donc un petit coup d'antidépoussiérant et parfois on va avoir affaire à des vrais coups de cœur et j'espère que ces coups de cœur seront réciproques avec vous, chers auditeurs de Radio Collège.
Bien entendu.
Alors je vais commencer avec quelqu'un bizarrement que nous avons écouté il y a très très peu de temps sur cette antenne. C'est l'ami Jonah Lewy.
Très bien.
Je
m'en rappelle très bien. C'était à l'occasion de l'émission sur les reprises. Non, sur les One Hit Wonder, pardon. Sur les One Hit Wonder.
Voilà. Ouais. Et justement, on va voir que ce n'est pas vraiment, totalement à One Hit Wonder, car quelques...
Alors attention, je l'avais évoqué à l'antenne.
Oui, tout à fait.
J'avais parlé du cas français.
Oui.
Et Jonah Lewy.
Et puis, bah, bon, cela dit, et c'est vrai aussi en Angleterre, parce que on trouve ce titre à des dizaines et des dizaines d'exemplaires sur toutes les compilations de Noël possibles en Angleterre, parce que c'est devenu une chanson qui fait partie de ce genre-là. Le titre m'échappe, il va falloir quand même que je réussisse à le retrouver.
Le titre que tu veux nous passer ou celui
non,
que...
le titre de Johnny...
Stop the Cavalry.
Stop the Cavalry, exactement. Ouais. Ça me revenait pas et ça m'énervait. Non, c'est pas du tout, évidemment, Stop the Cavalry, parce que là, dans Trésor caché, on aurait pu faire mieux. Non, il s'agit d'un single qui est sorti le 10 mai 1980, attention, pas 81, qui a quand même été numéro 16 dans les charts anglais, et qui s'appelle You'll Always Find Me in the Kitchen. Alors, pourquoi tout d'un coup ce titre réapparaît? Parce que il a été distribué sur un album, une compilation, une anthologie plus exactement, qui s'appelle Back to Mine, consacrée à Richard X. Richard X est un producteur en vogue.
Un producteur DJ, oui.
Voilà, exactement, c'est celui qui produit Rachel Stevens, par exemple. Et ce monsieur a de très 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 bons goûts. Enfin, très bons goûts. Disons, dans ses goûts, il a beaucoup de choses qui me semblent très agréables à l'oreille. Et il y a justement ce morceau de Jonah Lewy.
Chatting up and always get rebuffed. Enough to drive a man to drink. I don't do no washing up. I always leave the stuff piled up in the sink. But you will always find him in the kitchen at parties. Me and my girlfriend, we argued and she ran away from home. She must have found somebody new and now I'm all alone. Living on my own. What am I supposed to do? That's why you'll always find him in the kitchen at parties. You will always find him in the kitchen at parties. You will always find him in the kitchen at parties. Debutante said I like you, my bra. She was into French cuisine, but ain't no cordon bleu. This was at some doing on the screen.
not with her.
You will still find him in the kitchen at parties. You will still find him in the kitchen at parties.
At last I met a pretty girl, she laughed and talked with me. We both walked out of the kitchen and asked him a new why. And now I've done my time in the kitchen at Bali. I've done my time in the kitchen at Bali.
Alors apparemment c'était pas un trésor caché pour tout le monde puisque notre technicien Thierry fredonnait et sifflotait en même temps qu'il écoutait John Alewi chanter You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties.
Alors que moi j'étais interdit de stupéfaction parce que j'avais jamais entendu ce titre.
Et moi non plus, je l'avais jamais entendu avant une semaine, et je trouve ça vraiment excellent.
Ouais, c'est
moi,
très chouette,
le petit pont là à l'orgue. Bon, tant pis, je trouve ça très très jouissif. Alors une petite anecdote juste sur ce single, hein, qui ne fait pas partie d'un album, qui est resté à l'état de single, c'est que la fille qu'on entend et qui fait les chœurs sur ce morceau, c'est Kirsty MacColl, dont c'était la première session pour le label Stiff Records, et je crois la première session en général.
Kirsty MacColl qu'on avait retrouvé avec les Pogues, puis avec une carrière solo.
Et puis avec les Smiths.
Oui, avec les Smiths.
Avec les Smiths, sur Ask. Et puis qui, hélas, a disparu au large de la Jamaïque dans un accident de pêche.
Un peu idiot à la Edouard Michelin.
Un petit peu.
Bien. Alors après toutes ces considérations morbides dont nous avons régulièrement le secret d'ailleurs, nous allons prendre notre thème à bras-le-corps. Ce que nous faisons aussi chaque semaine, nous prenons toujours le thème à bras-le-corps et à la fin du thème, on est toujours désolé parce qu'on pourrait encore en faire des heures. Donc attendez-vous à ce que dans 20 minutes on vous dise on aurait pu faire plus long encore parce qu'on adore ça. Donc le thème du jour, les BO qui ont sinon éclipsé, en tous les cas sont presque plus célèbres que les films qu'elles illustrent. Et moi j'ai décidé aujourd'hui de faire très très latin d'ailleurs, ce qui est pas souvent mon cas, hein. Donc parce que le cinéma
c'est pour faire venir le soleil peut-être.
Oui, éventuellement. Ouais, le cinéma latin excepté peut-être l'horreur italienne. C'est pas complètement mon créneau. Et je commence avec un film qui finalement est plus américain qu'italien, avec Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti, qui même si toute une équipe italienne est un sujet italien, est malgré tout une production américaine.
Qui réalisait ça?
Alors c'est le cher Giuliano Montaldo. Voilà, pas super connu le bonhomme, hein.
Non, alors
qui s'était spécialisé un temps dans la...
J'en connais un, Montaldo, mais c'est pas le même.
Non, c'est pas le même, non. Qui s'était spécialisé dans la vaste et complexe thématique des accusés qui ont finalement raison. Donc c'était son créneau avec Sacco Vanzetti, il avait un sujet en or. Et deux ans plus tard, il fera un film sur Giordano Bruno, qui était un philosophe et mathématicien plutôt copernicien, proto-galilée. Ouais.
Et il a pas été brûlé, lui?
Et que Rome a fait cramer, pour une sorte de...
Ça sent le bûcher.
Pour forme d'hérésie, après 8 ans de procès. Et on a à peu près la même trame que pour Sacco e Vanzetti, donc ce film qui traite donc de deux Italiens venus aux États-Unis à la fin des années 20 pour vivre le rêve américain et qui vont être embarqués dans une sombre histoire de meurtre dont il semblerait a priori qu'ils étaient innocents, mais leur passé d'anarchistes pacifistes jouait en leur défaveur. Et après un procès qui lui aussi a duré 7 ans, un procès visiblement à charge, hein. Ils ont été pendus tous les deux, je crois.
Quand même.
Ouais. Donc le film est un petit peu célèbre à cause de son sujet. Il l'est surtout grâce à la musique. Il l'est un poil aussi parce que un des deux comédiens, Ricardo.
C'est pas Gian Maria...
Ouais, mais c'est l'autre. C'est...
Ah,
ouais. Il y a Gian Maria Volonté qui fait Bartolomeo Vanzetti, mais c'est l'autre, c'est Ricardo Cucciola qui fait Nicolas Sacco et qui a eu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes de 1975, si je ne m'abuse.
Wow.
Enfin, le 24e en tout cas, le 24e festival, l'année où où Le Messager de Joseph Losey avait eu la Palme d'Or, qui s'appelait pas Palme d'Or d'ailleurs à l'époque.
Super BO aussi, Le Messager. Et Georges Delerue.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, ce film est malgré tout dans l'inconscient collectif, éclipsé par la musique. Vous l'avez peut-être pas encore en tête si elle ne vous est parvenue.
Ça va vite revenir, ouais, parce que comme si.
C'est une BO signée Ennio Morricone, qui à ce moment-là, au début des années 70, je vous dis 75 pour le festival, mais c'est 71 évidemment.
Ouais. Nos auditeurs avaient corrigé de même.
Bien sûr, de même. J'en connais déjà qui avaient bondi. Hein. Morricone à l'époque, il signe des BO au kilomètre, hein, la même année, et puis dans des genres différents. Dans la même année, il fait celle du Casse d'Henri Verneuil,
ouais,
avec Belmondo, et celle de Quatre mouches de velours gris. Dont on vous avait passé un extrait, c'est un film de Dario Argento, et on vous avait passé déjà un extrait de cette BO très expérimentale. C'était, je sais pas si tu te souviens du morceau, c'était des battements de cœur,
oui, oui,
avec des gémissements et des halètements, et on savait pas bien si c'était une femme qui prenait du plaisir ou qui était en train d'être assassinée, et qui était tout l'enjeu d'ailleurs du morceau.
Ah ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque Morricone, il était à la fois sur le limit underground.
Ah bah complètement, ouais.
Avec parce que le tout public.
Avec le tout public. Parce que avec le casse, mais enfin pour les films. Mais même en termes de musique, parce que entre les expérimentations qu'il fait sur le film d'Argento et la musique qu'il va composer pour Sacco e Vanzetti, il y a un monde, hein.
Ah oui.
Il y a un monde. Je vous propose d'écouter le morceau tout de suite, histoire de vous remettre ça dans l'oreille, et puis je vous parlerai un peu plus de son interprète juste après, et pourquoi c'était elle qui a été choisie pour chanter la chanson et l'écrire d'ailleurs, puisqu'il s'agit donc de John Baez avec Here's to You.
Thank you.
moi je naissais en 1971, mais j'ai l'impression d'avoir grandi avec ce morceau à peu près tous les jours. Hein. Ouais. C'était le Caravane de Raphaël de l'époque. Hein.
Oh là là là, oui. Oui, c'était. Tu me disais hors antenne que ça avait été un des tubes de l'été.
Ouais.
Mais dis donc, si on s'était farci tout cette
tout l'été avec ce chant là, oui, c'est vrai que.
Oh là, ça avait la rentrée avait pas.
Oui, non, facile. On est loin de Chihuahua ou de Crazy Frog hein, comme tube de l'été. C'est vachement plus compassé. Alors John Baez, New Morricone l'a plutôt choisi parce qu'il se doutait qu'elle se sentirait proche du sujet. Et pour cause, parce que John Baez, au moment où elle enregistre cette chanson pour le film, son mari à elle, qui est pacifiste également,
Richard Farina,
oui, est en tôle. Ouais. Est en tôle parce qu'il veut pas aller au Vietnam.
Donc, c'est une bonne raison.
Donc oui, c'est une très bonne raison, mais elle voit donc un écho parfait en espérant que ça soit pas aussi dramatique pour son petit gars, ce qui ne fut pas le cas d'ailleurs. Et donc elle voyait un écho parfait et elle a souhaité s'impliquer complètement dans le projet. À l'issue de cet été 71 en septembre, donc parce que le septembre c'est l'issue de l'été, à la fête de l'Huma, on retrouve John Baez
par hasard
y allant à nouveau de Here's to You et quelques mois ou années plus tard, je ne sais plus exactement, Georges Moustaki la reprendra en français d'ailleurs.
Oui, il a fait des meilleurs trucs.
Georges Moustaki, dont vous constaterez qu'on
vous
en parle,
ping-pong.
Dont on vous parle désormais à
quasiment plus que Morrissey.
Plus que Bertrand Burgala. Hein, donc. Vous aurez quand même remarqué le glissement de terrain du New Breakfast Club.
Moi, ça me gêne pas parce que c'est vraiment un type sympa. Bon, là, on va s'éloigner un petit peu de Moustaki.
2 minutes alors.
Oui, 2 minutes. Et on va partir pour Ascenseur pour l'échafaud. Alors, c'est pas un film non plus complètement obscur.
Ah non, bien sûr. De toute façon, c'est pas vraiment des films obscurs dont on va parler. Au fond, ils ont eu une cote, mais aujourd'hui, on a tendance à se souvenir davantage de leur musique. Que des films par eux-mêmes.
Alors ouais, tout à fait. Et sur Ascenseur pour l'échafaud, tu sais qu'il y a une pléiade d'anecdotes parce que Miles Davis n'aurait jamais, mais alors vraiment jamais dû faire la musique de ce film. C'est d'ailleurs sa seule musique de film.
Oui, passé culte.
Ah oui, totalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Louis Malle était au moment du montage du film, au moment où Miles arrive à Paris pour 3 semaines de concert dans un bar parisien, mais il a emmené juste sa trompette, il a pas ses musiciens habituels. Et par Boris Vian, Miles Davis apprend que Louis Malle apprend que Miles est à
Paris. Ouais.
Donc comme c'est Louis Malle, et ça se voit d'ailleurs pratiquement dans tous ses films, il suffit de se souvenir du Souffle au cœur où le petit Julien vole un disque de jazz. C'était un vrai fondu de cette musique-là, un vrai fondu de bebop. Et donc il a envie d'entendre Miles Davis et il rentre en contact grâce à Boris Vian avec le trompettiste surdoué. Et là, Louis Malle lui propose de but en blanc de faire la musique de son film. Miles Davis avait pas du tout envie, d'abord parce qu'il était très très pris par les concerts qu'il donnait, et puis surtout parce qu'il n'avait pas ses musiciens habituels. Et
Louis Malle, le garçon était un peu capricieux de nature.
Oui, déjà. Ouais. Il le sera de plus en plus. Mais oui,
parce que c'est encore une époque où il ne joue pas en lamé avec des lunettes qui lui bouffent la tête. Il est encore fréquentable.
Ouais, il jouait pas encore de dos à l'époque lorsqu'il était.
Par contre, déjà courbé sur lui-même, je crois.
Sans doute. Et donc Louis Malle lui dit passez au studio des Champs-Élysées. Et puis vous verrez si le film vous plaît, si vous avez envie de le faire. Et là, alors, il met vraiment les petits plats dans les grands. C'est Jeanne Moreau qui fait l'hôtesse, qui sert les petits fours, qui sert l'alcool. Et puis Miles Davis finalement se laisse prendre au jeu. Et incroyable cette musique exceptionnelle. Parce que Dieu sait que je suis pas vraiment un fanatique de jazz.
On pourrait pourtant le croire aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'on pourrait le croire aujourd'hui. Et cette musique exceptionnelle, il va l'enregistrer en 3 heures, de 10 heures à 1 heure du matin.
Enfermé dans une cabine d'ascenseur.
Non, pas enfermé.
Dans tous les cas, c'est la sensation qu'on a.
Enfermé dans une cabine de projection, en regardant les images du film, il va improviser au fur et à mesure que le film défile devant lui. Si c'est pas exceptionnel, ça.
Si.
Et alors, chose encore plus exceptionnelle, mon petit Mariac. Un moment, pour montrer que tout s'est passé dans un sentiment d'urgence, il y a un petit morceau de peau qui se décolle de sa lèvre. Eh bien, Miles va profiter de ce petit morceau de lèvre qui rentre à l'intérieur du conduit de la trompette et va en faire quasiment un argument sonique. C'est ce qu'on va entendre sur le morceau, avec le petit morceau de lèvres dans la trompette et qui s'appelle.
Ça, si c'est pas l'anecdote.
C'est ça, si c'est pas l'anecdote, qui s'appelle Nuit au motel.
Pas été très attentif aussi, mais je l'ai pas vraiment entendu cette histoire de petite peau. J'espère que les auditeurs ont fait plus gaffe que moi.
Oui, surtout ceux qui écoutent habituellement l'émission de Pierre pour qui sonne le jazz tous les jeudis soirs de 20h à 21h. Une excellente.
Tu veux dire sur Radio Collège?
Sur Radio Collège, bien sûr. Bah, tu connais d'autres radios? Donc oui, quelques-unes oui. Quand même. Sur le 95.9, hein, je vous conseille d'ailleurs peut-être que certains qui connaissent pas les horaires habituels de l'émission de Pierre ont cru que c'était une supplémentaire. Alors, le morceau ne s'appelait pas exactement Nuit au motel, mais pour être précis et rigoureux, Dîner au motel.
Très bien. Ce qui se place juste avant la nuit. Moi, je vais cette fois-ci donc je vais abandonner l'Italie de Sacco e Vendetti, mais je vais pas aller très très loin. Je vous ai dit que je serais latin aujourd'hui. Je vais juste faire un petit saut au-dessus de la Corse pour atterrir en Espagne.
Ah, faut dire qu'ils ont le vent en poupe en ce moment. Hein.
Oui, ouais, oui. Ouais.
Et mais encore, Roland Garros n'est pas terminé.
Et Roland Garros n'est pas terminé, non, non. D'autant que les Suisses sont nos ennemis hein, pour quelques jours encore. avec l'Espagne, donc l'Espagne, je vais vous parler de cette fois-ci de Carlos Saura avec son Cria Cuervos. Donc encore, alors non seulement encore du latin, mais encore du can à gogo. Mmh. Bon, c'était l'époque où le cinéma latin avait encore une grosse cote aussi. Hein, avait encore une vraie identité et un vrai poids économique et artistique, ce qui est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Il faut l'avouer. Enfin, peut-être pas pour l'Espagne, mais enfin en tous les cas, l'Italie.
Oui, disons qu'il y a des arbres qui cachent la forêt. Ouais.
Même si on avait Moretti et Almodovar. Cette année encore à Cannes, pour autant c'est plus délicat derrière. Mais Carlos Saura, donc c'était un monstre de l'époque.
Ah oui.
Et qui avec Cria Cuervos avait décroché le prix spécial du jury en 1975, donc c'est pour ça que je me mélangeais un petit peu tout à l'heure. Il concluait avec ce film sa trilogie sur l'enfance qu'il avait entamée en 72 avec Anna et les loups et poursuivi un an plus tard, je crois en 73 avec La cousine Angélique qui déjà avait eu le prix spécial du jury. Pour autant, le cinéma de Carlos Saura, pour peu qu'il ait été très très en phase avec son époque et très très populaire à ce moment-là, il en reste pas grand-chose aujourd'hui pour nous petits Français et puis oui, je pense que les jeunes Français voient pas bien qui est.
Oui, et pourtant il y a des films qu'il faudrait revoir et peut-être réhabiliter. Je pense à un très bon film sur la jeunesse délinquante madrilène.
Oui, Déprisa. Là, c'est un concours de compétences. Non, c'est vrai qu'il est très très bien ce film.
Et très bonne bande originale.
Et puis il était étonnamment moderne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il en reste pas grand-chose de Carlos Saura. Mais si on se souvient bien de ce film qui parlait, bon je vous fais un petit pitch rapido, c'est à travers la détresse d'une gamine qui avait perdu sa mère et qui voit quelques années plus tard son père mourir, elle se croit responsable de tout ça et elle se plonge dans un monde imaginaire où elle fait vivre un peu tout le monde, et en filigrane de tout ça, parce que c'était le propos de l'époque chez Carlos Saura, c'est une dénonciation plus qu'évidente du régime franquiste du moment. Il y avait Géraldine Chaplin qui faisait la maman. On aurait pu s'en souvenir aussi pour ça, mais c'est surtout grâce à la BO et pas tellement la BO officielle de Frédéric Mompou qui tricotait les morceaux d'ambiance, mais il y a une chanson qui est signée par José Luis Perales et qu'il fait chanter à la petite Jeannette.
L'adorable Jeannette.
Ouais, ouais. Alors Jeannette, je vais vous la resituer un tout petit peu parce que finalement, elle aussi est presque connue que pour ce titre-là. Bon, quand on s'y intéresse un peu plus, elle a placé deux, trois autres chansons dans les charts, mais en France, essentiellement Porqué te vas, donc, qui est le titre qu'on va écouter dans deux minutes.
Ah, tu peux parler d'elle, on n'est jamais ennuyeux quand on
parle. Ah oui, non, alors, en plus, elle a un parcours assez étonnant. Elle
s'entend dans sa voix, ce parcours.
Elle est espagnole, mais elle est née à Londres, en 1951. De l'Angleterre, elle file à Los Angeles, où elle va vivre une dizaine d'années. Là-bas, elle écoute Dylan, Donovan, les Byrds. Donc, elle est vraiment partie dans une veine folk. Elle revient en Espagne, à 12 ans, et quelques années plus tard, en 1967, elle crée son premier groupe qui s'appelle Picnic. Alors je sais pas si elle écrit texte et musique, en tous les cas les textes c'est certain, mais je sais pas si elle composait en même temps ou si c'était le guitariste qui devait être amoureux d'elle comme dans tous les bons groupes.
Oui,
mais puis c'était assez facile avec Jeannette.
Oui, on peut le comprendre.
Qui s'occupait de la musique, je ne sais plus, mais à cette période là où elle a un petit succès donc en Espagne, il paraîtrait, alors c'est une rumeur apocryphe, hein, c'est pas confirmé nulle part, que Polanski l'aurait approché à cette époque là on voit bien pourquoi, parce qu'il a quand même un schéma esthétique assez précis,
qui lui coûtera cher.
L'avait approché à l'époque pour la faire tourner et elle aurait refusé. Mais rien de confirmé dans cette histoire. Elle se marie, elle file en Autriche 2-3 ans et elle revient en 70 où elle entame une carrière solo et elle avait un nom de famille, cette Jeannette évidemment que je n'ai malheureusement pas noté, mais qui va être sacrifié par son producteur qui va lui conseiller de garder seulement le prénom. Il lui conseille aussi d'oublier le folk et de se consacrer grâce à l'organe très particulier, la voix qu'elle a, de plutôt se tourner vers les ballades romantiques. Et son premier hit sera Soy Rebelle.
Oh là là, c'est une merveille. Ouais. Beaucoup moins connue que Porqué te vas.
Mais c'est son
premier numéro. Je conseille à nos auditeurs, on le passera.
C'est son premier numéro 1 en Espagne. Ça avait été écrit par le producteur de Julio Iglesias, je crois, à l'époque.
Mais d'ailleurs, Jeannette a fait les premières parties de Julio Iglesias.
Ouais, c'est
à l'Olympia. À l'Olympia, elle est en première partie en 1972.
Donc, rien d'étonnant à ça. Et puis, après Soy Rebelde, quelques années plus tard, et donc ça occupera la place numéro 1 en France l'été 76, pendant plusieurs semaines. Là, beaucoup plus radieuse qu'avec John Baez.
Ça, ça c'est des souvenirs de l'air douche verte.
Le tube qui la consacre définitivement, il s'agit donc de celui dont je vous parle aujourd'hui, la BO de Cria Cuervos, Por qué te vas.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas?
Quand même un fichu morceau.
Ah ouais, c'est quand même un fichu.
Il y a pas que la voix, hein. Il y a vraiment des super arrangements. C'est très très moderne, enfin, complètement intemporel, et c'est parmi les morceaux évidemment fétiches du New Breakfast Club.
Oui, et un morceau qui n'a vraiment pas usurpé sa popularité.
Ah non, pas du tout.
Je suis bien d'accord.
Par contre, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le film est plutôt austère et ce morceau-là, ce titre-là, n'est pas du tout.
Ouais, une sorte de sensualité clandestine tout à fait réjouissante. C'est bien de s'en servir comme étendard, je suis d'accord
avec
toi.
Un vrai truc pop. Et puis pour terminer, toi aussi tu vas rester
un vrai truc pop, vrai héros pop.
Un vrai héros pop, ouais. Un vrai martyr pop.
Un vrai martyr pop parce qu'il est mort très très jeune d'un accident de plongée, c'est François de Roubaix.
Ouais.
Et beaucoup des films dont il a fait la musique, alors à juste titre ou injustement, on les a oubliés parce que c'est vrai que l'homme orchestre, c'est pourtant De Funès, passe pas très souvent à la télévision.
Non, il passe pas souvent. Et il fait chanter De Funès, hein, le titre principal du film est chanté par De Funès. Les petits poupons.
Bravo. Le deuxième souffle, même Les Aventuriers de Robert Enrico, c'est pas des films qui passent très souvent, mais c'est pas de ces films.
Les Grandes Gueules peut-être passent le plus souvent.
Oui.
Dans le tas.
Et c'est pas sa meilleure partition. C'est pas celle que je préfère. Je pense une de ses partitions les plus connues, les plus emblématiques, c'est la partition.
Avec la Schkumoun,
bien sûr. C'est la partition qu'il a réalisée pour Dernier Domicile Connu. Alors Dernier Domicile Connu, c'est un film avec Lino Ventura et Marlène Jobert. Hein, c'est... Bon, j'ai vu le film il y a longtemps, c'est l'enquête d'un
moi je l'ai revu il y a peu, ouais.
Ouais, alors dis-nous ce que t'en penses en termes de cinéma. José Giovanni hein, qui a réalisé le film. C'est un flic désabusé hein, qui a à la recherche d'un dénommé Martin, un témoin indispensable à la condamnation d'un tueur. Bon, c'est le film policier.
Ouais, la trame classique.
C'est la qualité française début des années 70, fin des années 60. Quoi.
C'est valable si on aime Paris. Parce qu'on revoit un Paris des années 70 qui est assez épatant. C'est il y a un pendant sérieux à ce que les films de Jean Yann ont pu être, c'est-à-dire que ça photographie bien l'esthétique et le ton de l'époque quoi. Après ça, c'est idéal si on veut se faire un intérieur 70s. On fait des arrêts sur image sur l'appart de Marlène Jobert et on recopie tout parce que c'est un vrai
mode d'emploi. Et on essaie de tout retrouver chez Emmaüs
quoi. Ouais, et c'est parce que c'est un vrai mode d'emploi.
Alors en fait, François Roubaix était différent de beaucoup de musiciens de l'époque. Je pense à Philippe Sard, qui est aussi omniprésent dans ce début des années 70 et qui le sera même quasiment jusqu'à aujourd'hui. Car Philippe Sard, lui, il écrivait généralement des partitions amples, étendues, avec développement des thèmes. Alors que de Roubaix, lui, c'était une démarche beaucoup plus minimaliste.
Ouais, hein, plus miniature.
Il privilégiait des motifs assez brefs qui arrangeaient sous diverses formes. Ce qui fait que dans Dernier Domicile Connu, le fameux thème générique que vous allez entendre
reconnaître pour bien des raisons.
Oh, oui, pour bien des raisons. Eh bien, on l'entend repris, mais avec une instrumentation différente. On l'entend version flûte, version bandoneon, version piano, version synthétiseur.
Il aimait bien les instruments jouets aussi.
Oui. Et ce qui rapproche d'ailleurs de l'esprit New Breakfast Club.
Ouais.
Et aussi les synthétiseurs. Hein, c'était un des premiers à l'avoir popularisé dans les musiques de films. Il en avait des tas chez lui. C'était vraiment un pionnier de l'expérimentation. Et il suffit d'entendre le générique. Tu parlais d'instruments joués, le générique de Chapi Chapeau,
qui reste
comme aujourd'hui une marque de fabrique. On l'utilise.
Et qui a pas pris une ride. Hein.
Ouais.
Qui a pas pris une ride. Ouais, c'est vrai que ça symbolise assez bien son travail. Ouais.
Oui, alors tu disais tout à l'heure que le thème principal de Dernier Domicile Connu, nos auditeurs, même s'ils savent pas que c'est Dernier Domicile Connu, vont le reconnaître immédiatement parce que c'est sans doute un des morceaux de musique de film française les plus samplés. Aujourd'hui, hein, c'est un morceau que vous entendez au début du morceau Supreme de Robbie Williams. Vous l'entendez aussi sur All in My Grill de Missy Elliott, sur What's My Name de Lil Bow Wow.
C'est bien que t'en aies référencé un peu, parce que à part Robbie Williams, il me venait plus les autres.
Enfin, vous allez voir, ça va forcément vous dire quelque chose.
Et ben, mis à part les instruments joués, c'est vraiment une compilation des styles et des formes de Roubaix. Hein.
Ouais, c'est marrant parce qu'il y a aussi des influences classiques. On entend comme des échos du clavier bien tempéré. On entend comme des échos de Dave Brubeck. Enfin, là, ça c'est du jazz, c'est pas du classique. Mais il en fait quelque chose de totalement pop, hein, avec cette boucle et tout. Sans sas quand même, hein, cette musique. Bon, on l'avait passé lors de la nuit blanche que nous avions fait cet été. C'était ma façon de commencer mon heure à moi. Bon, c'était avant que je me prenne une volée de bois vert.
Ça me revient. Bon, alors comme promis, évidemment, je vous avais dit qu'on le ferait. On aurait pu poursuivre un petit peu le sujet, mais encore que là, on a réussi à cadrer à peu près nos
On aurait pu parler du Pacha, par exemple.
On aurait pu parler du Pacha, oui, que tu avais pensé prendre un moment, et certainement une poignée d'autres. Hein. Là, on a choisi tantôt des chansons, tantôt des BO complètes qui ont finalement plus survécu au film. On aurait pu préciser la chose encore, mais c'est un petit peu plus compliqué sur les BO qui sont tout simplement meilleurs que les films qu'elles illustrent, parce que c'est aussi un cas. C'était le sujet qu'on s'était donné d'abord, et puis ça nous a semblé un petit peu compliqué, donc on l'a un petit peu tordu. Mais réfléchissez-y, et puis vous pourrez venir faire une émission de radio sur Radio Collège 95.9.
Avec grand plaisir.
Et pour conclure, donc.
Bon, je tremble un peu parce que j'étais un peu sévère dans mes deux derniers quotidiens.
Oui, c'est vrai. Alors, moi, je t'ai promis quelque chose de facile, que je vais rester sympa. Et puis, finalement, le doute me prend. Je me dis que tu vas peut-être sécher.
Arrête! C'est terrible de me dire ça!
Sécher comme une merde.
Ça va chanter?
Non. Toujours une musique de film.
Ah, c'est bien, c'est dans le thème de l'émission, c'est parfait.
Je vais t'aider un petit peu, tu m'as aidé moi les semaines précédentes. C'est un film qui a un plein buzz, un plein micro-buzz en ce moment.
C'est un film qui est sur les écrans.
On peut le dire comme ça.
Sur les écrans de télé ou de cinéma?
Ni l'un ni l'autre.
Merci pour l'aide. Je suis encore plus dans le trou.
Bah, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre comme écran à part la télévision et le cinéma?
L'ordi?
Exactement.
La musique de Bizouman?
C'est la musique.
Ah oui, j'ai trouvé!
Que Tiburce Bellaventure a composé pour, donc, le micro-buzz du moment.
Ah oui, c'est vrai qu'on en Bizouman. Parle énormément sur le,
alors, Bizouman, dans la blogosphère. Bizouman, c'est un court-métrage premier d'une série qui promet de belles heures devant nous. Un petit film d'un quart d'heure. L'épisode 1 s'appelle L'affaire Maradoman. Et vous pouvez voir ça sur www.bizouman.com. On vous en reparlera certainement bientôt d'ailleurs. Je vous laisse la fin.
Oui, on sent que Céron fait son apparition sur la fin.
Voilà, bon, c'est fait pour cette semaine encore, hein. Une émission rondement menée avec des nouvelles rubriques, beaucoup de punch.
T'as idée de ce qu'on traite la semaine prochaine?
Pas du tout, figure-toi. Parce que je me suis fait voler mon cartable dans le bus en venant ce matin, donc il va falloir que je vois ça quand on sera rentré à la maison. Mais à coup sûr, ça devrait envoyer le bois.
Ah bon, à la bonne heure.
Salut à tous.
Salut à tous.